Donc aujourd'hui, pour notre étude, nous allons commencer à traverser l'évangile selon Jean. Parmi les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous venons de terminer ce qu'on appelle les épîtres pastorales, étudiant ensemble la première épître de Paul à Timothée, deuxième épître, et aussi son épître à Tite. C'était en vue de voir le ministère d'un véritable serviteur de Dieu et aussi comment nous devons prêcher l'évangile à ceux que le Seigneur attire vers nous. Maintenant, nous allons reprendre cette étude en traversant l'évangile selon Jean, Jean étant un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, et je suppose que ça va nous prendre pas mal de temps pour traverser cet évangile, mais comme d'habitude, je prêche verset par verset à travers les Écritures. Pour moi, c'est la manière que le Seigneur me dirige toujours de prêcher, parce que la Bible est un livre, c'est la parole de Dieu. Et de la manière que nous lisons un livre, on ne saute pas d'ici, par là, pour essayer de comprendre ce que l'auteur est en train de communiquer, mais nous prêchons verset par verset. Et surtout que la Bible est la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement que c'est la parole inspirée de Dieu, mais cette parole révèle le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et les versets que nous allons commencer à étudier ici dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5, nous montrent que le sujet de la Bible n'est pas autre que le Seigneur Jésus. Il est la parole divine. Donc c'est le titre de cette étude. Jésus-Christ, la parole divine. Alors nous lisons au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, je te remercie pour cette occasion de nous rassembler de cette manière avec des frères de partout dans le monde. Et je te remercie pour cette technologie qui nous permet de nous réunir ainsi. Et ma prière, c'est que, Seigneur, tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions, par ton esprit de grâce, contempler la gloire de ton Fils, le Saint Jésus-Christ, et l'œuvre accomplie dans sa vie et dans sa mort pour des pécheurs tels que nous sommes, des pécheurs que tu as choisis depuis l'éternité et pour l'éternité, et que notre salut est entièrement de toi et de ton Fils, du début jusqu'à la fin. Tel est le message que nous voyons dans la Bible. Alors que cela soit pour nous qui sommes tes élus, un message de confort. Et je te prie de guider mes pensées, mon cœur, mes paroles, afin de glorifier ton Fils, le Saint Jésus-Christ, en toutes choses. Et de cela, je te rends grâce et gloire. Dans le nom de ton Fils. Amen. Alors, ici, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 5, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ est la parole divine, qui dit la parole de Dieu dit Christ. Et cela est évident dès le premier verset. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, voyons tout d'abord ces deux mots, au commencement. Au commencement de quoi? Certainement, il faut aller plus loin que simplement au commencement de la création. Parce que ce terme est utilisé dans nos Bibles, dans Genèse chapitre 1 et le verset 1. Quand les gens veulent savoir, mais quel est le commencement de Dieu? Est-ce que Dieu lui-même a un commencement? Et dans Genèse chapitre 1 et le verset 1, sans explication, mais avec une déclaration claire, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le même terme que Jean utilise ici dans Jean chapitre 1, au commencement. Donc, cela veut dire que déjà au commencement de la création du monde, Dieu était déjà. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui a été créé, mais c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, ce terme utilisé dans Genèse chapitre 1, le verset 1 aussi, dans Jean chapitre 1 et le verset 1, c'est de nous montrer que quel que soit le commencement, Dieu y était déjà. Même s'il faut aller depuis l'éternité, Dieu y était déjà. Et non seulement que Dieu y était, mais la parole y était. Vous pouvez peut-être vous poser la question, mais comment nous savons que lorsque Jean écrit ici ces paroles inspirées, que c'est de Jésus-Christ qu'il écrit? Pour moi, la plus grande explication vient plus tard dans ce chapitre et le verset 14. Il n'y a pas question de savoir qui est la parole divine, la parole de Dieu, parce que dans Jean 1 et verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair ». Donc, si dans le verset 1, c'est écrit que la parole était Dieu depuis le commencement, depuis l'éternité, mais que cette même parole a été faite chair, il faut se poser la question, à quel moment alors est-ce que Dieu a été fait chair? Et la réponse est simple, c'est dans la venue de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est là le mystère de la piété dont Paul écrit à Timothée, que Dieu a été fait chair. Mystère, le mystère, mais mystère glorieux. Alors, cette expression au commencement, c'est de nous montrer que comme Dieu est éternel, le Seigneur Jésus-Christ est éternel, parce que la parole égale Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, il ne faut pas penser que c'est là le commencement de son existence. Non. Il est aussi éternel que Dieu lui-même. Et nous voyons ça dans plusieurs passages de la Bible. Par exemple, dans Jean 17 et le verset 5, dans la prière sacerdotale du Seigneur Jésus à l'égard de ce peuple qu'il devait aller sur la croix et payer leurs dettes. Jean 17 et le verset 5, il adresse cette prière à son Père. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, notez, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est pourquoi je disais, nous devons aller plus loin que le commencement du monde, quand c'est écrit au commencement. Parce qu'ici, Christ adresse son Père et le remercie pour sa gloire qu'il avait auprès de lui, c'est écrit, avant que le monde fût. Donc, il faut aller dans l'éternité pour ce commencement, et nous savons que l'éternité n'a pas de commencement. Aussi, dans Proverbe, chapitre 8, c'est pourquoi j'aime lire l'Ancien Testament, le Nouveau, cette doctrine de l'éternité de Christ, qu'il est Dieu éternel, n'est pas simplement une doctrine que nous trouvons dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, dans Proverbe chapitre 8, ici le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme la sagesse de Dieu qui était auprès de Dieu le Père depuis l'éternité. Quand nous lisons dans Proverbe 8 et le verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. » C'est pour ça que certains disent, « Ah voilà, que le Seigneur Jésus était un être créé par Dieu. » Mais ici, c'est une manière de parler que l'existence du Seigneur Jésus-Christ, il était là avant les œuvres qu'on observe dans le monde, avant la création. C'est une autre manière de parler du fait que le Seigneur Jésus est éternel. Et la raison que je dis cela, c'est dans le verset 23. Ouais, c'est un verset qui explique l'autre. Alors, si quelqu'un prend verset 22 dans un sens littéral, donc elles vont conclure que l'Éternel Dieu a créé le Seigneur Jésus. Mais c'est une manière de parler parce que verset 23 dit, j'ai été établi dans l'éternité, dès le commencement. Alors, essaye de penser à cela. Que comme l'éternité n'a pas réellement un commencement, mais c'est une manière de parler. Ainsi même, le Seigneur Jésus a été établi depuis l'éternité, dès le commencement. C'est-à-dire qu'il est éternel, aussi éternel que Dieu, le Père lui-même. C'est écrit avant l'origine de la terre. Alors, c'est la première des choses que nous constatons concernant le Seigneur Jésus comme la parole divine, c'est qu'il est depuis l'éternité. Mais deuxièmement, en revenant à notre texte, dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, nous voyons dans la deuxième partie du verset 1 et aussi le verset 2 que cette parole est Dieu lui-même. Qui dit éternel dit Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Alors, voilà le mystère de la divinité. Parce qu'il y a certains qui disent que le Seigneur Jésus est un être créé, mais qui n'est pas Dieu. Et quand nous lisons ici, nous voyons que une telle pensée ne peut être la vérité. Parce que c'est vrai, il y a Dieu, parce que c'est écrit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Mais on ne peut pas ignorer que c'est écrit « Et la parole était Dieu ». Qui dit Dieu dit la parole. Alors, voilà ce que la Bible enseigne au sujet de la Trinité. Trinité ne signifie pas trois différents dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. C'est pourquoi tout à l'heure, en lisant dans Jean chapitre 17 et le verset 5, le Seigneur Jésus a adressé son Père. Donc, il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a qui disent, oui, mais la Bible n'utilise pas le terme Trinité. C'est vrai, mais on n'a pas besoin que la Bible utilise ce mot pour comprendre, en lisant la Bible, qu'il y a des versets qui parlent de Dieu le Père. Il y a les versets qui parlent de Dieu le Fils. Et il y a certainement les versets qui parlent de Dieu le Saint-Esprit. Mais les trois sont un. Et voilà la révélation que Dieu donne de lui-même à travers la Bible. C'est pourquoi même depuis le début du monde, la création, dans Genèse chapitre 1, lorsque nous lisons le premier verset, au commencement, Dieu, si vous regardez dans l'original, Dieu est au pluriel. Il y a plusieurs manières de, dans l'hébreu, d'indiquer si c'est un nom au singulier ou bien au pluriel. Ici, le mot en hébreu, c'est Elohim. Et lorsque im est ajouté à la fin de Eloah, donc ça met ça au pluriel, le singulier aurait été écrit Eloah, mais au commencement Elohim. Alors, on peut se poser la question, donc il y a plusieurs dieux, non? Parce que le verbe qui est employé dans Genèse chapitre 1, c'est au singulier. Donc, d'une manière grammaticale, on peut dire que ce n'est pas correct de avoir le nom au pluriel et le verbe au singulier. Mais la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourtant, il est en trois personnes, au fur et à mesure que nous lisons la Bible, cela est révélé plus clairement. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu qui agit en harmonie. Pourtant, il y a les trois personnes. Et c'est pourquoi, plus tard, lorsque c'est une question pour Dieu de créer l'homme, alors, il dit dans le verset 26 de Genèse 1, « Puis Dieu dit, après avoir créé le reste du monde, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il va imaginer que, donc, il y a plusieurs dieux. Mais non, c'est une manière de parler encore, pour que, en unité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont créé l'homme à leur image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Voilà la première manière que l'homme a été créé à l'image de Dieu, en lui donnant cette domination. Parce que Dieu domine, Dieu est souverain, Dieu règne. Et il a donné ce pouvoir à l'homme de dominer, toujours sous la tutelle de Dieu lui-même. L'homme n'est pas libre. Il est soumis à l'autorité de Dieu, mais l'homme est créé dans l'image de Dieu en ce que l'homme pense et agit et a une volonté exactement comme Dieu qui est la sagesse et il réfléchit, il agit selon sa volonté sur toutes choses. Alors c'est ça le sens. Et verset 27 dit, alors Dieu créa l'homme à son image. Là encore, le mot Dieu dans l'hébreu, c'est au pluriel, mais encore créa au singulier et à son image. Ça ne dit pas à ses images, mais à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, en ce qui concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, voilà la raison pour laquelle Dieu a interdit à ce que les hommes fassent des images de lui. Je sais qu'aujourd'hui, les images prédominent la religion, même certaines dénominations qui se disent chrétiens. On voit des images, même des artistes qui peignent des images d'un soi-disant Jésus. Mais nous savons que la raison pour laquelle Dieu a dit que nous ne devons pas faire des images de lui pour représenter Dieu en quelque façon que ce soit, c'est parce que Dieu a déterminé que cette image soit révélée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est écrit ici dans Colossiens chapitre 1 et le verset 15. Il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. Quand les gens cherchent aujourd'hui des apparitions, des visions, pour dire que, ah, j'ai vu Dieu. Non. Dieu ne s'est jamais révélé qu'à travers son Fils, le Saint Jésus-Christ, et sa venue dans le monde. Un corps lui a été préparé. C'était la manière que Dieu a ordonné à ce qu'il se révèle. Et il est, ce Christ est l'image du Dieu invisible. Et c'est écrit le premier né de toute la création. Alors voilà encore où il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre, parce que beaucoup voient ça et disent, ah voilà, le premier-né, donc il était le premier à être créé, non? Le premier-né s'agit de sa position, comme nous avons dans la société des premiers-nés qui sont héritiers de toutes choses. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né de toute la création de Dieu, comme Adam a été mis dans le jardin pour dominer la terre. Mais quand on parle de toute la création, ce n'est pas seulement de cette terre, mais de l'univers. Tout ce qu'on peut appeler créé a été créé par lui et pour sa gloire. C'est pourquoi le verset 16 dit cela, Colossiens 1, 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Cela est vrai même jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune autorité qui existe, quelles que soient les politiques des pays, les élections qui passent, c'est toujours Dieu qui dirige et place les gens dans ces positions d'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le verset 17 dit, il est avant toute chose. Cela ne veut pas dire avant toute chose simplement en ce qui concerne la chronologie, mais avant toute chose en priorité et en autorité, au-dessus de toute chose. Il est avant toute chose et notez, toute chose subsiste en lui. Alors, pourquoi ça c'est important? C'est pas seulement dans la création du monde, mais en ce qui concerne son Église. En ce qui concerne ceux que Dieu sauve. C'est C'est écrit, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Ouais, le mot encore, le commencement. Cela veut dire à la tête de son Église. Et le premier-né, encore, en position d'autorité, le premier-né de Dieu d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il a dû venir dans ce monde et donner sa vie en rançon pour payer la dette de ce peuple que le Père lui a donné. Et cette dette ayant été payée, la satisfaction accomplie, donc il ne restait aucune raison pour le Seigneur de rester dans la tombe. Il est sorti, donc le premier-né d'entre les morts. Parce que nous sommes nés dans ce monde, morts dans nos péchés. Et si Christ est mort pour nous, donc c'est lui qui a la tête, et c'est à cause de lui que Dieu nous donne alors la vie. C'est à cause de lui, c'est en lui et pour lui et par lui. Alors, revenons dans Jean chapitre 1 et le verset 1 et 2. C'est ça que nous voyons, que la parole n'est pas moins que Dieu lui-même. Quand c'est écrit, il était la parole. Ce nom est donné, comme nous avons déjà vu dans le verset 14, celui qui est venu dans la chair, qui a été incarné, Dieu dans la chair. Alors tout ceci signifie que ça ne peut être autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est cette parole. C'est-à-dire, si Dieu a quelque chose à révéler de lui au pécheur, c'est à travers son Fils. C'est comme je suis en train de communiquer maintenant avec vous. Vous ne pouvez pas savoir mes pensées ou bien les idées qui traversent mon esprit si je ne parle et déclare ces choses. Et c'est la même chose concernant Dieu. Personne ne peut connaître Dieu si ce n'est à travers sa parole, non seulement la parole inspirée que nous avons ici dans la Bible, non seulement la parole révélée, parce que ça prend l'Esprit de Dieu de révéler qui Dieu est à nos esprits, mais il faut dire la parole incarnée, c'est-à-dire devenue chair. Je sais que chaque année, les religions célèbrent la naissance de Jésus, mais sans comprendre pour la plupart ce que signifie la naissance de Jésus. Ce n'est pas seulement le fait qu'il est né, mais pourquoi il est né et pour qui il est né et ce qu'il a accompli en venant dans ce monde. Voilà ce qui est nécessaire à comprendre. Et l'auteur aux Hébreux précise cela dans son épître aux Hébreux chapitre 1, où nous lisons, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà la parole. Et comment? En devenant chair lui-même. En s'introduisant dans ce monde de péché pour s'identifier avec des hommes et des femmes pécheurs qu'il a décrété depuis l'éternité sauvé, mais pour sauver, la justice devait être satisfaite à leur égard. Dieu ne peut pas simplement regarder ailleurs pour oublier que nous sommes des pécheurs. Le paiement doit être fait. Mais pourquoi alors il devait devenir chair? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dans son essence, il est Son caractère, sa nature, il est esprit. Mais aussi, l'homme ne peut pas, sans être Dieu, satisfaire à Dieu. Donc, c'était nécessaire qu'il soit le Dieu-homme. Et qu'il offre sa vie en sacrifice afin que Dieu soit satisfait et qu'il puisse sauver son peuple. Mais ici, dans Hébreux chapitre 1, nous lisons, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, en venant lui-même dans la chair. Et c'est écrit qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Voilà le sens d'être le premier-né. Et qui étant le reflet de sa gloire, et notez bien, l'empreinte de sa personne. Nous ne devons pas aller à un artisan pour nous fabriquer une image de Dieu. Non, Christ lui-même est l'empreinte de la personne de Dieu. Alors, certains peuvent se demander, donc, les images que nous voyons dessinées de Jésus qui sont peintes et placées par-ci, par-là, est-ce que ça, c'est pas une bonne chose? Non. Si Christ aurait voulu que les hommes aient des dessins de lui, il y avait à son époque des artisans, des gens qui pouvaient dessiner son image, mais il n'a pas laissé une image de cette manière. La manière qu'il est venu, il est devenu homme, il est ascendu au ciel et nous attendons son retour. Mais il n'y a pas d'image qu'il nous a donnée. Donc, si quelqu'un a besoin de telle image pour l'adoration, c'est évident qu'il ne connaît pas Dieu. Pierre, en écrivant, parce que Pierre a vu le Seigneur dans la chair comme Jean et d'autres. Il a vu Dieu dans la chair avec ses propres yeux. Pourtant, il dit que nous ne devons pas nous confier à ces choses, qu'il y a à travers la Bible et les Écritures une parole plus certaine que tout cela. Et c'est ce que nous lisons dans la Bible. Mais il dit dans 1 Pierre 1, et verset 8, lui que vous avez, vous aimez sans l'avoir vu. Voilà, il s'adresse à nous aujourd'hui. Je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus en personne, mais je peux dire qu'il m'a été révélé au cœur par l'Esprit. Comment? À travers ses paroles. Il est la parole révélée, il est la parole incarnée, il est la parole inspiré et il est la parole vivante. Il vit maintenant afin d'intercéder en faveur de tous ceux pour qui il a payé leurs dettes en tant qu'homme. Il y a un homme aujourd'hui assis au ciel et qui reviendra de la manière qu'il est parti. Et nous attendons son retour, mais sans l'avoir vu. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1:8. Et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. J'ai un ami qui est prédicateur et il a sur son bureau encadré un morceau de papier blanc. C'est vide, mais il garde ça sur son bureau et quand les gens passent pour dire, mais pourquoi vous avez cette photo ou bien ce papier encadré, mais il n'y a pas de photo. Il dit, mais ça c'est l'image du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup qui postent ces images sur les murs, mais voilà l'image. Alors les gens répondent, un peu étonnés pour dire, mais il n'y a pas de photo. Et il dit exactement. Et c'est là, il cite maintenant 1 Pierre 1, 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. en qui vous croyez sans le voir encore. La seule manière que cette parole est révélée est à travers cette parole inspirée. Voilà ce qu'il nous a laissé. Et comment Dieu maintenant révèle son Fils. Même pour les petites histoires bibliques que certaines maisons éditent pour lire aux enfants, ils ont des images, plein d'images. Il faut déchirer toutes ces images-là. D'ailleurs même, la plupart de ces histoires ne correspondent pas avec ce qui est écrit dans la Bible. Comment est-ce que nous pouvons améliorer ce que Dieu lui-même nous a déjà donné dans sa Bible? Pourquoi ne pas simplement prendre la Bible et encourager nos enfants à suivre dans la Bible avec nous? C'est ce que je fais quand je prêche. Les enfants ne sont pas dans un autre département qu'on appelle l'école du dimanche. Non, nous sommes ensemble. Et je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Pas seulement la parole en ce qui concerne l'encre et le papier, mais la parole qui est Dieu, qui était au commencement avec Dieu, la parole qui est avec Dieu et est Dieu. Ouais, voilà cette union qui existe entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il est était avec Dieu et il est Dieu. Telle est cette union divine. Alors, troisièmement, quand il s'agit de la parole, non seulement il est dès le commencement, il est Dieu, mais cette parole a aussi créé toute chose. Nous l'avons déjà vu dans Colossiens chapitre 1, et le verset 15 à 18, mais c'est exactement ce qui est écrit ici dans Jean 1 et le verset 3. Voyez comment la Bible est unie en son message, quoique écrit, les écrivains, pas l'auteur, l'auteur c'est l'Esprit de Dieu, mais les instruments que l'Esprit a utilisés pour enregistrer cette parole sont des hommes. Quand on considère depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a plus de 40 auteurs que Dieu s'est servi pour écrire cette parole. Et à travers plus de 1500 ans, quand on considère cela, c'est vraiment étonnant. Pourtant, ce que Moïse a écrit, ce que Job a écrit, correspond avec ce que Paul, Jean, Pierre, tous ceux qui sont les auteurs, les instruments de Dieu pour écrire cette parole, ont la même langue, ont le même sujet, et c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais ici, nous voyons cette parole qui est lui-même éternelle, mais qui a créé toutes choses. C'est écrit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est vrai, non seulement dans la création de ces choses, mais aussi la gouvernance. Parce que ce que Dieu crée, c'est lui qui dirige, il ordonne toutes choses. C'est ça ce que beaucoup ignorent aujourd'hui. Ils imaginent comme si c'est Dieu qui nous a créés, mais maintenant laisse les hommes à leur propre volonté. Non, nous respirons, nous vivons à travers cette vie que Dieu nous donne. Nous existons par lui. Mais puisque c'est Christ, le Seigneur Jésus, qui est cette parole divine, donc nous pouvons dire que même ceux qui sont des pécheurs réprouvés, qui seront laissés à leur sens réprouvés et jugés, ils vivent toujours aux dépens de Jésus. Dans Jean chapitre 17, et le verset 2, encore dans sa prière sacerdotale, c'est ce que Christ a prié. Il remerciait le Père du fait que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair. Mais il dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, voilà le pouvoir entre les mains de celui par qui toutes choses ont été créées. Il gouverne toutes ses créatures et en même temps, puisqu'il est le créateur, il est aussi le juge. Il sauve qui il veut en accord avec la volonté de son Père, mais aussi il condamne qui il veut. Il n'y a personne condamné qui peut dire qu'il a été condamné injustement, parce que nous sommes pécheurs de nature, et voilà pourquoi il condamne. Si nous sommes sauvés, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Alors, quatrièmement, non seulement nous voyons que la parole est dès le commencement, que la parole est éternelle, que la parole a créé toutes choses, mais verset 4, la parole est la source de vie de toute créature. C'est écrit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quand il s'agit de la lumière, il y a une certaine lumière naturelle que les hommes ont, sont des sages en ce qui concerne le monde, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dote des hommes, toute sa création avec cette sagesse naturelle. Donc, il est la source de vie de toute créature, même si les hommes ne lui donnent pas la gloire. C'est ce qui est vraiment une manière de manifester la gloire du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne réagit pas comme nous. Si nous avons l'autorité sur des gens qui sont des rebelles, alors immédiatement nous allons les éliminer, mais pas Dieu, pas Christ. Il agit toujours selon sa volonté. Il a dans sa main ceux à qui il donne une grande intelligence. Il est leur source de vie et cette lumière naturelle qu'ils ont pour comprendre, connaître. Lumière signifie l'intelligence. Même je suis en train de parler avec vous maintenant à travers la technologie qui a été inventée par des hommes naturels. Leur but n'était pas que cela soit un moyen maintenant pour les élus de Dieu d'entendre l'évangile à travers le monde. Pour eux, c'était pour des raisons personnelles. Pourtant, c'est le même Seigneur Jésus qui leur a donné cette intelligence et que maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, par sa grâce, en profitent. Vous voyez pourquoi il est la source de toute créature, la vie. Il y a la vie physique et il y a la vie spirituelle. Il y a la lumière physique. Pour le moment, j'ai la lumière qui brille à côté de moi parce que j'ai besoin de cette lumière pour voir, mais il me faut aussi des yeux. Ce n'est pas seulement la lumière, il faut des yeux. Et voilà ce qui fait la différence dans la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. Il y en a à qui il a donné cette lumière naturelle, l'intelligence, pour vivre et survivre, mais il ne leur a pas donné la lumière spirituelle pour connaître Christ en vérité. Alors, est-ce qu'il est injuste pour cela? Non. Il est Dieu. Il crée toutes choses pour sa gloire. Et quand nous voyons autour de nous, il y a toutes sortes d'objets que nous utilisons, mais qui n'ont pas le même but. Vous voyez? Comme Paul dit il y a des vases de miséricorde et puis il y a des vases de colère. C'est Dieu qui décide. Donc, pourquoi le verset 5 est important? Quand c'est écrit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Quand c'est écrit « La parole luit dans les lumières », c'est toujours Christ qui est cette lumière. Mais pourquoi les gens ne le voient pas ou bien ne l'adorent pas dans toute sa gloire? Il faut dire que c'est parce qu'ils sont encore aveugles dans leur péché. Et ça exige maintenant une œuvre de grâce de la part de Dieu en Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ. Cette grâce est toujours en Jésus-Christ. Si un pécheur est sauvé, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, est révélé au cœur à travers cette parole. C'est tout. Si je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est parce que Dieu m'a fait grâce de pouvoir le connaître d'abord et maintenant l'annoncer. C'est pourquoi beaucoup ont cette Bible. La lumière, lui, non seulement dans le monde naturel, mais la lumière, lui, dans cette parole. Mais ça, lui, dans les ténèbres. Parce que, en dehors de Christ, c'est notre état. Nous sommes dans les ténèbres. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, ouvre les yeux de ceux qu'il a, depuis l'éternité, ordonné au salut. Et le reste vont continuer aveuglement dans les ténèbres sans l'apercevoir. Mais telle aussi la volonté de Dieu. Alors nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est le début de cette étude dans l'évangile selon Jean. Et j'ai vraiment la joie de pouvoir commencer cette nouvelle étude dans l'évangile et de contempler les bénédictions du Seigneur au fur et à mesure que nous traversons cet évangile, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en toutes choses. Amen.